I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On t'a conditionné pendant des années à penser d'une certaine manière, en ayant toujours cette même représentation de femme asiatique hypersexualisée, de mec asiatique complètement émasculé, etc. Je pense qu'il y a toujours une part de notre cerveau qui pense, et je pense que le processus de déconstruction, c'est pas forcément d'effacer ça, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient en fait.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je suis née en Haute-Savoie d'un père blanc, d'une famille un peu prolétaire, on va dire, pour simplifier, enfin, qui était agriculteur et qu'ensuite sont allés à la ville et tout pour trouver du travail. Et ma mère est vietnamienne, elle est immigrée première génération, et en même temps elle est arrivée en France quand elle avait quelque chose comme 6 ans ou peut-être même moins. Et du coup, je trouve que, enfin, quand les personnes parlent de vécu de personnes d'origine asiatique de première génération, ça colle pas toujours avec ce que je me souviens d'elle, parce que du coup je vois plus ma mère maintenant, et ça correspond plus à presque un vécu de personne de deuxième génération. Bon, après, je suis mal placée pour parler à sa place. Je sais que dans les discussions d'Asian American, il y a ce terme qui a émergé d'immigrants 1.5, quoi, genre, de génération 1.5, et je pense que ça correspond pas mal, parce que, enfin, c'est quand tu as immigré jeune. Enfin, moi, j'avais du mal à m'identifier déjà comme asiatique. Pour moi, c'était clair que ma mère l'était, mais moi, je l'étais pas. Je sais pas, peut-être que je sais pas comment ça s'expliquait dans ma tête d'enfant, mais voilà. Et elle, je pense qu'elle rejetait pas mal, la culture asiatique, la culture viet. Je déteste quand les gens disent culture asiatique comme si tout était mélangé, alors que c'est hyper différent. Et ouais, enfin, elle a jamais voulu m'apprendre le vietnamien, parce que, enfin, j'insistais énormément pour apprendre cette langue, moi, quand j'étais petite. Ouais, c'était plus quand elle nous laissait quelque part avoir un contact, parce que du coup j'ai un petit frère, quand elle nous laissait avoir un contact avec la culture vietnamienne, j'avais l'impression que c'était un peu pour faire plaisir à ses parents, et que pour elle, enfin, ça avait peut-être pas, enfin, ça avait pas tant d'importance. En tout cas, je la sentais pas hyper proche de ça, quoi. Je vais faire de la psychologie, peut-être un peu de comptoir, mais je pense que, bah, forcément, elle était dans des camps de réfugiés, etc. Elle a vécu des trucs qui sont pas très très cool. Et enfin, voilà, la guerre, tout ça. Et ouais, je pense que pour elle, cette identité-là devait être quand même pas mal liée à ça, à la misère et à la merde. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle mettait cette partie-là un peu de côté.
Marie, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois une meuf asiate de couleur plutôt foncée, enfin, genre plus foncée que ce que j'ai l'habitude de voir. Je vois pas trop une meuf viette, enfin, genre j'ai du mal à voir la correspondance entre mon visage et les traits du visage vietnamien. Je pense que c'est parce que je suis métisse, quoi. Ouais, j'ai un peu un problème avec la façon dont je suis perçue souvent. La plupart du temps, les gens ont du... Enfin, à part les viettes qui reconnaissent toujours les viettes. Ça, c'est vraiment un truc genre de forceur. Mais souvent, ouais, les gens ont tendance à me dire « Ah, t'es native américaine. » C'est un peu... ouais, c'est un peu bizarre. Et je pense que quand j'étais petite, du fait de ça, je fétichisais un petit peu ça. Et comme c'était toujours quelque chose qui était présenté de manière positive. J'avais vraiment envie d'être ce que les gens voyaient de moi. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était de la merde parce que on a exterminé des populations de personnes natives américaines et que leur situation aujourd'hui est terrible. Et du coup, j'ai arrêté de faire de la merde.
Quand est-ce que t'as compris que t'étais asiatique?
Très tard, je trouve. Du coup, comme j'ai vécu dans un milieu qui était majoritairement blanc, j'ai été surtout élevée par ma grand-mère, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et du coup, c'est difficile de se rendre compte. Enfin, je me suis toujours dessiné les dessins d'enfants en bâton, là, en couleur. Je me suis toujours dessiné rose. Les personnes avec qui j'étais, même plus tard, genre... Enfin, j'avais des amis de la famille, etc., qui avaient des enfants et qui me dessinaient encore, enfin, qui me dessinent rose. Et j'avais vraiment cette impression d'être blanche parce que j'avais pas du tout ce lien en fait avec la culture viette aussi. Et je me rappelle que quand on me demandait les questions rituelles de d'où tu viens, parce que forcément, quand t'es pas blanc en fait, t'as toujours cette question. Je répondais toujours moi je suis savoyarde. Et ça choquait les gens, il y avait aussi des réactions un peu amusées, genre arrête tes conneries quoi, enfin t'es pas savoyarde. Et pour moi ça je comprenais pas du tout leur réaction, même si je faisais aussi un petit peu de manière provocante, parce que j'étais super proche de ma famille savoyarde. J'ai appris le patois quand j'étais petite pour pouvoir parler avec la famille de ma grand-mère. C'était vraiment quelque chose qui prenait vraiment de la place dans ce que je définissais comme mon identité. Et du coup, ça a pris du temps avant que je comprenne qu'en fait, les remarques que j'avais sur ma couleur de peau, sur, je sais pas, la cuisine, ça peut être plein de trucs, ou juste « Ah, ta mère, elle est viette, je suis allée au Vietnam », ou genre « Ma tante est allée au Vietnam », ou « J'adore la cuisine vietnamienne », etc. Tous ces trucs qu'on a tous beaucoup entendus. C'est ça qui m'a un peu mis sur la voie que les Français franco-blancs n'ont pas ce genre de questions. Et je pense que c'est vraiment la question, c'est cette question précise de d'où tu viens qui a déclenché un petit peu cette réflexion de « Ah, mais en fait, comment est-ce que je m'identifie ?» La façon dont je m'identifie, elle est en décalage avec la façon dont les autres personnes m'identifient, et peut-être qu'il faut que j'aie une réflexion autour de ça. Et je me suis pas reconnue asiate tout de suite, parce que la majorité des représentations de personnes asiatiques qu'il y a dans les médias, c'est des personnes est-asiatiques, donc plutôt chinoises, coréennes, japonaises. Des personnes qui sont blanches de peau, et même maintenant, quand je cherche sur Google, je sais pas, femme vietnamienne, ça va être des personnes très claires de peau, à cause des produits pour rendre sa peau plus claire, qui sont beaucoup utilisés, parce que c'est toujours... Il y a toujours cette histoire de colorisme, de plus t'es blanc, plus t'es clair... mieux t'es vu, parce que ça fait un peu riche, t'es d'une haute classe sociale, etc. Et du coup, du fait de tout ça, j'avais du mal à me rendre compte que... Enfin, en plus du fait que j'étais pas vraiment liée culturellement à tout ça, j'avais vraiment du mal à me rendre compte que j'étais asiate. Avant de constater que j'étais asiate, je me suis reconnue comme étant racisée. Mais c'était bizarre, parce que du coup, comme je me reconnaissais pas comme... étant viette ou étant asiate, les remarques me glissaient dessus en mode... Enfin, genre, la personne est bête, genre, elle sait pas que je suis blanche, en fait. Et du coup, ça me touchait pas comme si je m'identifiais. Et je pense qu'il y a eu pas mal de choses vis-à-vis des clichés sur les asiatiques, qui sont très travailleurs, voilà. Ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a touchée, parce que... j'avais des bonnes notes en classe, et du coup ça me saoulait que les gens étaient en mode bien sûr t'as eu une bonne note en maths, mais c'était asiate, enfin genre en mode c'est facile pour toi, genre je sais pas, c'est dans tes gènes ou un truc, genre t'as plus 10 points de plus que tout le monde, et du coup t'as pas besoin de travailler, ou je sais pas trop quoi. Et du coup, ça, ouais, c'est des trucs comme ça, bizarrement. J'étais en mode, putain, genre, je travaille et c'est pas du tout reconnu, quoi. Et en même temps, il y avait ce côté considération à double vitesse, ou je sais pas trop comment dire. Mais j'avais une amie qui était métisse aussi, mais métisse chinoise. Et elle aussi, elle s'en prenait plein la gueule, et genre à aucun moment de ma vie de lycéenne, ça m'a fait tilt qu'en fait on subissait les mêmes discriminations, parce que pour moi, ben, elle était chinoise et genre ça avait rien à voir avec mon identité ou quoi que ce soit, et du coup ça me faisait vraiment pas tilt qu'en fait elle avait vraiment les mêmes remarques que moi et tout, mais quelque part c'est terrible ce que je vais dire, hein. Mais quelque part je trouvais ça normal parce que j'avais encore cette idée que j'étais blanche, quoi, et je m'en veux tellement de pas avoir su être solidaire avec elle, alors qu'on vivait tellement la même chose, enfin de manière différente, c'est clair, mais ouais.
Et comment ça a été de grandir avec un papa blanc?
Pas trop facile. Ouais, c'est un peu délicat, parce que je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'était très long pour moi de comprendre que j'étais pas blanche, parce que à chaque fois, enfin même encore récemment, si je lui expliquais je suis fatiguée parce que dans la rue on m'a dit sale chinoise, rentre chez toi, ou des trucs comme ça, il allait être en mode mais explique-leur que t'es française, en fait, et que t'es blanche. Concrètement, enfin, il a jamais employé le mot blanc, mais quand il disait explique-leur que t'es française, c'était clair pour lui que ça renvoyait à ça, au fait que j'étais pas... pour lui, j'étais vraiment pas asiatique. Et enfin, ça l'a jamais empêché, genre, de dire des trucs racistes envers les Asiatiques pendant toute mon enfance, et du coup, genre, c'était difficile aussi de pas l'être, en fait, genre de pas être raciste envers des personnes qui ont la même identité que moi, quoi. Et du coup, j'avais un ami qui, pour le coup, est un mec cis blanc, qui était vraiment intéressé par les questions de justice sociale, et du coup, qui m'a fait connaître Amandine Gay. Par le biais de son blog Orphea Negra, et j'ai pas mal lu ses articles, et je me suis renseignée un peu sur l'afroféminisme, et il y avait pas mal de choses qui résonnaient avec ma propre expérience, et du coup je me suis vraiment... je me suis plus identifiée, même si je savais forcément que j'étais pas noire et que ça me concernait pas, quoi, mais il y avait vraiment des choses qui résonnaient, genre ce qu'on appelle maintenant l'intersection, en fait, le fait de vivre pas qu'une seule oppression, de pas qu'une seule discrimination. C'est-à-dire, en vrai, quand je me fais harceler dans la rue, je me sens asiate, enfin, je me sens une meuf asiate plus que juste une meuf, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir des réflexions, etc., ça va, enfin, il va y avoir un moment où je vais avoir du harcèlement de rue aussi racial, quoi, où ça va être, les Chinois, ils sont partout. Sachant que je suis viette en plus. Et du coup, c'est ce moment-là où il y a eu un peu une rupture, et je me suis dit, mince, c'est pas... ça englobe pas complètement mon expérience, et c'est pas normal qu'on parle pas de ça et que je me reconnaisse pas là-dedans.
Après t'être intéressée au féminisme blanc, puis à l'afroféminisme, est-ce que tu t'es dit, ah, mais est-ce que ça existe des féministes asiatiques?
Je pense que je me suis juste rendu compte qu'il y en avait pas... Je sais pas exactement à quel moment ça m'a fait tilt, mais oui, il y a un moment où j'ai commencé à me dire, bah non, c'est pas possible, je peux pas continuer à ressentir cette proximité avec les afrofemmes alors que ça me concerne pas du tout, et qu'il y a plein de problématiques qu'on subit pas, quoi, en tant que personne asiate. Et il y avait pas du tout de... Enfin, à l'époque, il y avait pas Grace Lee, les personnes asiatiques étaient pas étaient moins vocales à propos du racisme qu'elles subissaient, ou avaient juste pas l'opportunité de le dire aussi. Peut-être qu'on leur laissait juste pas la parole. Et je me suis un petit peu renseignée aussi surtout aux États-Unis, parce que je pense que, j'imagine que pour l'afroféminisme c'est pareil, mais j'ai l'impression que tout vient de là et qu'ils sont tellement en avance sur beaucoup de questions sociales par rapport à la France. Et avec les Black Panther Movement, il y avait un groupe d'Asio-Américains aussi qui soutenaient, qui ont pris position pour soutenir le mouvement de libération des Noirs. Et oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense qu'on trouve pas mal sur Internet des photos Black Power to Black People et Yellow Power to Yellow People. Yellow Peril supports Black Panther. Ça m'a vraiment fait tilt de me dire que qu'il faut qu'il y ait cette solidarité entre personnes qui subissent des oppressions un peu différentes et un peu identiques, et je trouve que c'est quelque chose qui était pas trop mis en avant au début des mouvements contre le racisme anti-asiatique en France, en tout cas. Et je suis contente de voir que ça évolue vers plus de solidarité.
À ton avis, pourquoi les questions du racisme anti-asiatique étaient moins visibles en France ces dernières années, et aujourd'hui ça commence à émerger un peu plus?
Je pense qu'il y a vraiment une problématique d'intégration, et je pense que même aujourd'hui, nos parents, nos familles supportent pas forcément le fait qu'on s'exprime sur le racisme anti-asiatique, parce que ça veut dire rejeter la France qui nous a hébergés et tout, alors que pas forcément, c'est peut-être aussi parce que on aime notre pays, qu'on veut le voir s'améliorer. Et du coup, il y a vraiment un truc à propos de ça, à propos de il faut pas en parler, il faut être bien intégré, etc. Et ça fait partie un peu de ce qu'on appelle le mythe de la minorité modèle. Je pense qu'il y a un terme qui a été américain de base, des États-Unis, et qui parle en fait de comment est-ce que les minorités asiatiques sont mises en avant comme la bonne minorité, ils ont un bon travail, ils s'intègrent bien, etc. C'est un petit peu l'exemple pour toutes les minorités raciales, et de dire soyez plus des médecins, dites rien, exprimez-vous pas sur les violences que vous subissez.
Souvenez-vous de ce couturier, Shaolin Zhang, qui s'est fait tabasser à mort en août dernier. Eh bien, c'est un cliché qui l'a tué. Devinez ce que ses agresseurs ont dit à la police. Que autour d'eux, on disait que les Chinois avaient beaucoup d'argent. On nous prend donc pour des gens riches, travailleurs, discrets. Alors ça, vous me direz, c'est des préjugés positifs. On devrait être content, non?
Les gens qui disent que les Asiatiques sont très travailleurs sont justement ceux qui ont tendance à être le plus méprisant et le plus raciste envers toutes les minorités. Quand on est une minorité dans un pays, si l'on s'élève, si l'on veut réussir, on dit on est jaloux parce qu'on veut monter trop haut, et si on ne le fait pas, on va vous mépriser. Donc c'est pile je gagne et face tu perds.
C'est un peu le côté on comporte-toi bien et on te donne un petit peu de notre privilège quelque part. Et en faisant comme ça monte aussi un petit peu les minorités raciales entre eux, parce que du coup tu te dis les Asiatiques ils ont plus d'argent parce qu'ils sont mieux intégrés, etc. Ils ont des meilleurs travail, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui crée de la violence et des agressions. Il y a toujours pas mal d'agressions sur des personnes asiatiques parce que on pense que elles ont du cash sur elles. Et ces clichés-là, c'est né par la domination blanche. C'est des clichés qui ont été véhiculés à cause de cette domination-là, parce que on dit que les Asiatiques c'est bien, ils sont bons à l'école, nanana, on va leur donner, ils sont mieux placés dans cette société dominée par la blanchité. Et je pense que c'est quelque chose qui tristement apparaît pas trop encore en France, et qui est exactement important de rappeler, Ça permet d'asseoir une domination. En fait, tu donnes des prix, enfin tu donnes un petit peu plus de gâteau à un enfant, et après tu fais croire à tous les autres enfants que tout est de la faute à l'enfant, l'enfant qui a eu plus de gâteaux, et après ils se bastonnent, et puis voilà, t'es tranquille. Enfin, pendant ce temps, tu fais ton truc de ton côté, et t'as pas besoin de répondre à leurs questions, leurs revendications, parce qu'ils sont trop occupés à régler ça. Enfin, je me rends compte, quand je le dis, que ça fait comme si c'était pas grave. C'est hyper grave ce qui se passe, et c'est pas normal que, genre, il y ait des personnes juste parce qu'elles sont d'origine asiatique, elles se fassent agresser, voire même tuer. C'est absolument horrible. Et en plus, ça rajoute à la précarisation de ces personnes, parce que, enfin, il suffit d'aller dans le 13e pour comprendre que, il y a quand même une hiérarchie, il y a beaucoup de personnes immigrées asiatiques qui parlent, par exemple, pas très bien français, etc., et ça limite l'accès à l'emploi, ça a des impacts de tous les jours dans leur quotidien, quoi. Je pense que, enfin, cette compréhension des oppressions, ça m'a permis de mieux comprendre mon histoire, en fait. Parce que moi, du coup, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je vis plus avec ma mère. Et ça fait depuis que j'ai 18 ans que je lui adresse pas la parole, et c'est très bien comme ça. Et en fait, ma mère, c'était une personne qui était très toxique, et qui m'a amenée à être en dépression quand j'étais quand j'étais au collège. Ça partait d'un truc un peu bête d'adultère, etc. Mais en fait, on s'est plus ou moins rendu, enfin ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande image derrière qu'on voyait pas. Et ma mère, elle a, enfin, mais ma mère a jamais vraiment aimé mon père, je pense. Enfin, c'est difficile de donner des sentiments à des personnes, alors que, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, mais encore une fois, elle avait des discours qui étaient pas toujours cohérents entre eux, etc. Elle me faisait vraiment l'effet d'une coquille vide qui a un but, c'est d'être au mieux possible pour elle, et de pas trop se soucier des conséquences que ça pouvait avoir sur les autres. Et pendant longtemps, en fait, j'ai cru que, genre, c'était juste une femme vénale qui avait voulu profiter de mon père, qui avait voulu acquérir un confort de vie, etc., qui utilisait le fait qu'elle était asiatique pour se faire plaindre. Et je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que ce qui excuse rien de tout ce qu'elle m'a fait subir en termes de chantage, de menaces, de violences psychologiques, etc. Mais je pense que déjà de sa vie au Vietnam, et des traumatismes qui ont pu se passer dans un contexte d'immigration forcée, de fuite, en fait, et de se balader, il me semble qu'elle est née dans un camp de réfugiés, elle a passé toute sa petite enfance de camp de réfugiés en camp de réfugiés. Je connais pas la plupart de mes oncles et tantes, parce que ils sont morts, quoi. Et même elle, c'est pas, enfin, quand je lui posais la question de combien elle avait de frères et sœurs, elle était pas forcément capable, enfin, je sais pas si elle voulait pas me le dire, ou voilà, mais elle avait pas de réponse à m'apporter, ou parce qu'elle savait pas, ou parce que, enfin, tellement il y a, enfin, de choses horribles qui se sont passées. Et où ça soulève un peu le problème de trauma intergénérationnel. Il s'est passé des choses dures dans sa vie qui font que je saurais pas comment l'exprimer, mais elle a pas un fonctionnement neurotypique, quoi. Ça fait qu'elle a eu des comportements qui ont déclenché aussi des traumatismes chez moi, et qui peuvent aussi amener à un fonctionnement neurotypique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent, les traumas intergénérationnels, parce que c'est la santé mentale dans l'antiracisme est pas ou peu traitée. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment important, parce que déjà, d'une part, le racisme, c'est une agression, ça engendre des traumas, et ça a un impact sur la santé mentale, et en plus, le fait que ce soit pas du tout, enfin, dans nos communautés, ce soit pas du tout bien vu de parler de ça, parce que ça fait vraiment, enfin, aller voir un psychiatre, un truc de blanc, etc., ça crée vraiment des problèmes. Et je pense que c'est aussi, ça a été utilisé, ou ça l'est peut-être encore, je sais pas, j'ai pas assez de recul là-dessus, comme un outil de domination, de créer ces traumas, et après, il n'y a pas de psychiatre qui est capable de gérer ça. C'est terrible, toutes les personnes encore aujourd'hui qui immigrent, les personnes migrantes, les personnes réfugiées, qui vivent des choses terribles et qui ne seront jamais prises en charge parce qu'il n'y a pas encore de personnes qui soient habilitées à traiter ce genre de sujet. Et ouais, du coup, ça m'a permis aussi, du coup, ces réflexions sur l'antiracisme, sur le féminisme, etc., et sur d'autres oppressions, ça m'a permis aussi de réfléchir à ça, au fait qu'en fait, le comportement de ma mère, il sortait pas de nulle part, en fait. Et encore une fois, ça excuse rien, parce que c'est pas parce que t'as vécu des choses horribles que t'es obligée de te comporter d'une manière horrible. Mais je pense qu'aujourd'hui, je blâme plus ce que j'ai vécu de moche dans mon enfance à un système que à ma mère, qui quelque part est aussi un peu paumée là-dedans. Et ouais, j'ai appris aussi à remettre un peu en question aussi la position, le rôle de mon père dans tout ça, parce que maintenant je me rends compte que clairement il a un gros problème de fétichisation des femmes asiatiques. Et aujourd'hui le féminisme, je trouve qui concerne, le féminisme qu'on voit le plus, en tout cas le féminisme qui est un peu présenté comme mainstream, voilà, c'est quand même pour des personnes au corps assez normé, qui vont être blanches, qui vont être cis, qui vont être minces, etc., etc., hétéro, même si là ça s'ouvre peut-être un petit peu plus. Et moi j'avais un petit peu ce cliché que si tu vis une oppression, tu vas forcément être complètement au taquet sur toutes les autres oppressions, et tu vas, si t'es queer, tu vas éviter de dire des trucs racistes, etc. Ce n'est pas vrai. Et ça m'a pas mal choquée dans des milieux lesbiens, bipans, de femmes pour femmes, quoi, de retrouver des trucs comme ça, et c'est trop chiant, ça arrive aussi forcément dans les milieux hétéro, mais c'est encore plus saoulant quand t'arrives là-dedans et que tu crushes sur quelqu'un, et puis tout d'un coup la personne n'arrête pas de te dire des trucs racistes en pensant « Ah, c'est trop une blague !» Non. Du coup, voilà, donc beware. Ouais, je pense qu'il faut pas se faire faut pas être utopiste, et il faut se rendre compte que ça peut arriver partout, il y a rien qui prévient de quoi que ce soit. Et je pense que c'est important aussi de dire qu'on existe, en fait, parce que ça aussi c'est quelque chose que souvent qui est mis un peu de côté, en mode « Ah bah pareil, c'est un truc de blanc ». Et même quand tu grandis et que t'as déjà pas beaucoup de modèles, de représentations de personnes racisées ou de personnes qui te ressemblent d'une manière ou d'une autre, et qu'en plus t'as vraiment pas de personnes racisées LGBTI, c'est compliqué de te dire de t'accepter aussi, et de te dire Non, en vrai, quand tu regardes les filles, c'est pas juste parce qu'il y a ce diktat de la beauté et l'hypersexualisation des femmes et nan, peut-être que, en fait, tu peux être attirée par les filles aussi. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose pour les meufs lesbiennes, bipans, etc. Mais en dehors de l'orientation sexuelle, c'est quelque chose aussi pour les personnes qui sont de minorité de genre, on va dire. Je pense que c'est difficile aussi quand t'es une personne trans d'avoir... Enfin, il y a des blancs partout dans ces milieux et on voit que des personnes trans blanches et c'est vraiment montré comme un truc comme un milieu blanc, comme un truc de blanc encore une fois. Ce qui est incroyable parce que quand on fait des recherches, on se rend compte que le genre tel qu'il est présenté, en Occident, c'est-à-dire binaire homme-femme, c'est justement occidental et qu'il y a beaucoup d'ethnies où c'est pas fou, c'était pas du tout comme ça et souvent il me semble qu'au Vietnam il y avait plus de deux genres, mais je veux pas dire des bêtises, après je saurais pas dire dans quelle ethnie exactement ou si c'est, mais de toute manière ce qui est sûr c'est que les rôles, les genres tels qu'ils sont construits, le genre de la femme et le genre de l'homme et ce qui est lié, genre l'homme travaille, la femme est à la maison, etc., ça n'avait pas du tout ce sens-là au Vietnam et ça a été effacé avec la colonisation, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de nos identités racisées. Le genre s'exprimait d'une manière différente et c'est complètement ironique que maintenant on se dise que genre les transidentités, les minorités de genre, etc., ce soit un truc de blanc alors qu'en fait non.
Tu te reconnais comme queer?
Ouais, mais après je trouve que c'est difficile aussi, je sais pas comment, ça dépend vraiment de la définition du mot, parce que pour beaucoup de personnes queer ça a quelque chose avec voir avec la non-binarité et de pas être dans les normes de genre et enfin voilà, et pour moi c'est plus dans le sens politique, c'est plus dans le sens d'être de pas se reconnaître dans les normes d'orientation sexuelle et de genre et de tout ce qui a trait à ça et de questionner un petit peu ces normes-là. Et du coup, je sais pas si j'utilise vraiment encore le terme de féministe. J'utilise le terme de Asiat femme parce que je trouve le mot badass. Dans le fond, je sais pas trop si ça a vraiment du sens. Pour moi, c'est vraiment plus pour centrer le discours sur le racisme anti-asiatique. C'est important pour moi de rajouter le mot femme, peut-être pas pour parler de féminisme, mais pour parler en tout cas de cette intersection. Notamment parce que je trouve que, j'en parlais d'ailleurs récemment avec des amis, que les mecs cis asiates sont pas très au fait de ces discriminations genre de meufs et ont même tendance à culpabiliser les filles asiates parce que elles sortent avec des blancs et en fait le problème avec je pense la discrimination des mecs asiatiques c'est que c'est beaucoup lié sur la virilité. Beaucoup de clichés complètement cons, genre petite bite, machin, ou genre le fait d'être docile, etc. D'ailleurs, c'est des choses qui sont nées pendant la colonisation pour asseoir une meilleure domination du peuple, de représenter l'homme comme émasculé, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mexis asiates qui veulent prouver cette virilité et qui sont un peu dans la dénonciation de type « Ah, mais pourquoi est-ce que les meufs asiatiques, vous nous abandonnez et tout, pourquoi est-ce que vous vous mettez du côté des blancs ?» Et ça met en avant le fait que les meufs asiatiques doivent faire des efforts pour... Comme si on leur appartenait ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup aussi de vidéos sur la Yellow Fever. Et au lieu d'interroger sur quelles conséquences ça va avoir, en fait, les couples mixtes pour la meuf asiatique, c'est des rapports de domination. Ça veut dire que tu vas vivre à court terme, avec une personne qui ne reconnaît pas les discriminations qu'ils subissent, qui va probablement essayer de te silencier, qui va te renvoyer toujours à son imaginaire exotisant, etc. Et c'est une violence. Et le fait de dire que la morale de tout ça, c'est que les mecs cis-asiates, la morale qu'ils voient à cette histoire de Yellow Fever, c'est « Oh ben... » On nous abandonne, on préfère les mecs blancs au lieu des mecs asiates. Et ça n'a rien à voir avec la violence que tu te prends tous les jours quand t'es avec une personne raciste, en fait. Et Yellow Fever, ça veut dire littéralement la fièvre jaune. Et du coup, c'est cette attirance que ont certaines personnes envers les personnes asiatiques, parce que jaune, les asiates, hein, c'est pas du tout raciste. Parce qu'on est très jeune comme dans les Simpsons. Et du coup, ça renvoie aussi un peu. C'est différent aux États-Unis qu'en France, mais je pense qu'en France c'est pas mal lié aussi à la colonisation. Il me semble, j'avais vu une vidéo de Francesca Chescale qui fait une émission qui s'appelle Decoded sur MTV, et il y a des vidéos sur YouTube, c'est en anglais, mais qui expliquait un petit peu d'où est-ce que ça venait, cette Yellow Fever. Et du coup, il y a eu un livre qui s'appelle Madame Butterfly, qui a un petit peu posé les bases de tous ces clichés de la meuf asiatique bien docile, etc., qui a connu énormément de succès et qui a un peu répandu cette idée que les femmes asiatiques étaient exotiques et du coup attirantes parce que elles renvoient à des pays qu'on connaît pas trop, avec une végétation luxuriante, etc. Qu'elles sont petites et mignonnes et dociles et obéissantes, et qu'il faut les protéger. Et à propos de cet imaginaire colonial là, j'ai une anecdote d'une metteuse en scène qui s'appelle Caroline Guela Nguyen, qui a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Saigon, qui est une super pièce de théâtre qui parle des Viet Kieu. Les Viet Kieu, c'est les personnes vietnamiennes qui sont considérées maintenant comme étrangères parce que elles ont dû quitter le Vietnam après la décolonisation, parce qu'elles étaient du côté des Français, quoi, entre guillemets, et qui du coup après ont immigré parce qu'elles étaient obligées, parce que t'avais pas le droit de rester au Vietnam si t'avais manifesté ton soutien ou si tu t'appartenais à cette branche politique là. Et du coup, elle a fait une pièce de théâtre là-dessus. Elle a expliqué que cette pièce de théâtre était née après des recherches. Elle a écrit un livre et après, elle a invité ses comédiens à faire de l'impro là-dessus, sur ce thème. Du coup, c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a des acteurs français, des acteurs vietnamiens, des acteurs blancs et des acteurs racisés. Et je trouve que c'était aussi intéressant parce que ça présentait qu'il n'y a pas que l'identité vietnamienne, elle était aussi disloquée. Il y a les personnes qui sont vietnamiennes, qui vivent au Vietnam, les personnes qui sont françaises d'origine vietnamienne, il y a les personnes qui sont issues de l'immigration, Il y a plusieurs langues vietnamiennes. Il y a le vietnamien qui est parlé, les vietnamiens au Vietnam, il y a le vietnamien qui est parlé par les vietcieux, les personnes qui ont immigré, et qui est du coup un vietnamien qui est plus, littéraire, mais qui fait un petit peu maintenant vieillot. Si tu vas au Vietnam et que tu parles cette langue, tu te fais moquer. Et du coup, c'était vraiment intéressant d'explorer cette diversité d'identité. Et elle disait du coup qu'elle les avait invités à faire de l'improvisation et qu'à chaque fois qu'il y avait un homme blanc avec une meuf asiatique, d'une manière ou d'une autre, ressortaient ces clichés la meuf asiate, elle est pauvre, elle est précaire, le mec blanc il va essayer de l'aider, souvent il y a des bails sexuels, la meuf vietnamienne elle a dû se tourner vers le travail du sexe pour réussir à avoir de l'argent, etc. Enfin, il y avait toujours cet imaginaire de le mec blanc va avoir du pouvoir, la meuf vietnamienne va avoir des problèmes financiers et le mec blanc va l'aider. Et c'était quelque chose qui naissait un petit peu des deux côtés, quoi. C'était pas... du coup, je pense qu'elle insistait pas mal sur ce fait-là, que en fait, les imaginaires de tout le monde, en fait, sont colonisés.
Bonsoir, je m'appelle Hart. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais pouvoir rentrer au Vietnam, mon pays natal.
Tout à l'heure, tu parlais du mythe de la minorité modèle. Toi, en tant que femme asiate d'origine vietnamienne, est-ce qu'on t'a déjà assigné à ce modèle-là de cliché sur la docilité des femmes asiatiques?
Je saurais pas trop l'analyser, j'aurais tendance à dire un petit peu tout le temps, et en même temps, du fait que je corresponde pas du tout à ça, je pense qu'il y avait ce côté c'est une meuf asiate, elle devrait être docile et elle l'est pas, oh c'est grave excitant. Après, ça dépend, il y a des petits trucs de tous les jours. Par exemple, se faire doubler dans la queue, genre au hasard, genre les personnes passent devant toi parce que t'es la seule meuf asiate, ou des trucs comme ça, ou genre, dans un événement ou n'importe quoi où il y a du monde, il y a toujours ce côté, tu sens vraiment que, l'asiate, elle va pas l'ouvrir, quoi, elle va se la fermer, et du coup, on en profite. J'aurais pas d'autres exemples concrets comme ça, mais pour moi ça se voit tout le temps, quoi, d'être toujours mise de côté parce que je suis une meuf asiatique, quoi.
Et d'ailleurs, j'imagine que ça doit s'exprimer aussi comme une forme de pression. Comment est-ce que tu vis cette pression là qui se veut des clichés positifs et en même temps ça reste des clichés, quoi?
Je pense que j'ai jamais vécu ça comme positif parce que la fétichisation des femmes asiatiques, je pense que c'est quelque chose que vraiment tout le monde a vécu, tous et toutes les perçues femmes asiatiques. Pour moi, c'était un point où c'était tellement constant que ça aucun moment j'ai pu penser que c'était positif, en fait. Je me rappelle pas d'un moment où, dans le cadre de drague, de flirt, ou des trucs un peu connotés sentimental ou sexuel, quoi. Je me souviens pas d'un moment où on m'a pas renvoyé au fait que j'étais asiate, quoi. Et à un moment, du coup, quand j'étais un petit peu plus jeune, mais pas tant que ça, je pense il y a 2-3 ans, ça commençait à me peser sérieusement, où j'étais en mode, non, en fait, je vais pas rentrer... Je vois pas en quoi est-ce que des relations, les relations amoureuses que je peux avoir et les relations sexuelles que je peux avoir n'entreraient pas dans un, clairement dans un schéma de domination où La personne qui veut avoir des relations avec moi a clairement cette idée de genre elle est exotique, elle est d'origine viet, je sais pas, genre mais je sais parler vietnamien parce que mon ex était vietnamienne et enfin tous ces trucs que bah, là encore va y avoir un parallèle peut-être un peu déplacé, mais dans Get Out je trouve que c'est quelque chose qui parle beaucoup, je vais spoiler. le moment où du coup le personnage principal il fouille dans la chambre de sa copine et découvre des photos
de chasse, quoi.
Ouais, voilà. Et qui se rend compte que genre toutes les personnes avec qui elle a relationné c'était des personnes noires. Et enfin, je pense que Get Out il joue pas mal sur toucher des triggers un peu et renvoyer à des choses vécues et qui font mal, quoi. Et du coup je pense que ça c'est un petit peu genre une des peurs que j'avais tout le temps. Enfin, en fait non, c'était pas une peur parce que genre j'étais sûre que ça allait arriver, quoi. C'était une certitude que j'avais. C'est pas que lié au fait que une personne va avoir des relations que avec des meufs asiatiques, mais c'est aussi tout l'imaginaire qu'il y a derrière, même si elle a pas forcément ce passé là avec des ex asiates, etc. Enfin, dans la discussion, si je peux pas parler d'autre chose que de ma culture vietnamienne ou etc. Genre déjà des choses auxquelles je me sentais pas du tout liée. Le fait qu'on me renvoie toujours à cet imaginaire, enfin le fait qu'ils aient toujours, je sais pas, genre une poupée asiate en tête, quoi, et que je doive correspondre à ça, c'était juste pas possible. Pour moi, j'étais juste en mode bah ok, ou ce sera jamais pour moi ça, genre j'y renonce complètement parce que genre je me sens pas du tout à l'aise là-dedans et ça me faisait me sentir vraiment mal, quoi. J'avais vraiment l'impression, en plus il y avait ce côté où de toute façon les femmes blanches sont mieux perçues, etc. Et de toute façon j'aurais un peu le second rôle, le rôle de la maîtresse, etc. Parce que enfin c'est ce qui était arrivé dans une de mes relations et je voulais pas de ça, quoi. Du coup je me suis dit stop et j'arrête. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, il n'y avait pas que des personnes blanches dans la vie. Et que, avoir, en fait, relationné, dit comme ça, ça fait vraiment, genre, je choisis, etc. Non, c'est juste que je me suis rendu compte, après, en relationnant avec des personnes racisées, que d'avoir un vécu un peu similaire, ça permettait d'éviter certaines choses, de pas retomber un petit peu dans les mêmes écueils. Enfin, je dis pas que toutes les personnes qui ont vécu le racisme ne sont pas capables de perpétuer le racisme, c'est complètement faux. Mais y a des choses qui résonnent et tout, et je sais pas. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec ça. Et l'autre chose que j'avais envisagée, enfin à ce moment-là où j'étais vraiment à bout, j'avais eu que des relations des relations ou absence de relations, des moments de drague, etc., qui s'inscrivaient que dans ce schéma-là, j'avais jamais connu autre chose que ça et ça me fatiguait beaucoup. J'étais en mode, si je vais avoir que ça, autant en tirer profit, en fait. Genre, pourquoi est-ce que je profiterais pas de ça et pour être avec des personnes qui sont socialement d'un milieu social plus élevé, et puisque de toute façon ce sera pas des personnes qui vont m'aimer pour ce que je suis et me reconnaître, etc., pourquoi pas profiter d'elles, en fait, tout simplement. Et genre, c'est terrible d'en être à ce point là au pied du mur où tu te dis que genre ta vie ça va jamais être que ça et que personne va jamais te respecter pour qui tu es, d'être en mode tant qu'à faire, autant me faire des sous là dessus, quoi.
Now ask yourself who's screwing.
T'avais intériorisé de la psychophobie ?
Oui, bah tout le monde. Je pense que c'est l'un des trucs qui est le plus... Enfin, l'un des trucs... On va pas faire une compétition de discrimination ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est quelque chose qui est encore hyper ancré et ouais, c'est super triste.
Et en fait, ça fait vraiment écho, en tout cas, tout ce qui est santé mentale chez les personnes racisées. Et on va te dire, en tant que femme noire, t'es le pilier de la famille, donc t'as pas le droit de... Enfin, pseudo-famille, ou même quand t'es une grande sœur, etc., tu n'as pas le droit de tomber, quoi. Tu dois être toujours forte, tu dois toujours être dans une résilience. Et au final, cette résilience-là, on en parle aussi dans les collectifs féministes, en disant que voilà, les femmes noires sont résilientes. Et je trouvais ça problématique parce qu'on parlait toujours de ce côté strong black woman, etc. Et maintenant, je trouve qu'on déconstruit ça un peu petit à petit en disant que bah, la résilience, c'est pas forcément de jamais pleurer, de jamais exprimer ses émotions. C'est justement avoir le courage d'en parler et de faire écho peut-être à d'autres situations, etc. Et c'est vrai que, avec Extimité notamment, j'ai commencé à. Intéressant un peu à tout ce qui est santé mentale, psychophobie, je me suis rendu compte de plein de choses. On me dit, bah ouais, enfin, être dépressive, c'est pour les blancs, pourquoi tu fais ta blanche, pourquoi tu pleures sur si peu, c'est pas évident quoi. Et du coup, le fait que t'en parles.
En tant qu'homme noir gay, je peux que abonder dans votre sens. Moi-même, j'ai longtemps hésité à demander de l'aide pour ma santé mentale et je l'ai jamais fait parce que j'avais intériorisé de la psychophobie. Et en me renseignant sur le sujet, j'ai réalisé que dans la communauté LGBT, globalement, on avait... Enfin, je crois que c'est de l'ordre de 4 fois plus de chances de souffrir de problèmes de santé mentale.
Bizarrement.
T'intériorises totalement l'homophobie ambiante, ou la transphobie ambiante, ou la sérophobie ambiante. Enfin, il y a... Ouais, c'est dur d'être un LGBT aujourd'hui en France, et dans plein d'autres pays. Et ça peut aussi s'entrecroiser ou s'accumuler avec les problèmes de racialisation. Et oui, par exemple, les activistes de Black Lives Matter aux États-Unis, il y a des statistiques qui ont prouvé qu'ils avaient beaucoup plus de chances de se suicider ou de souffrir de dépression. Et ça, c'est global chez les militants en général, en fait. Une fois que tu ouvres les yeux, c'est tellement dur de... Tu peux plus les fermer. Et donc, tu vois tout ce qui va mal en permanence. Et, forcément,
et ça t'assaille et ça te transperce.
Tu peux être down, quoi. Bah.
Je voulais avoir l'air super intelligente et faire une référence à Matrix, mais je me rappelle plus si la pilule bleue ou la pilule rouge.
Je crois que c'est la pilule rouge. Je sais plus. Et justement, qu'est-ce qui, Marie, te donne de la force ?
De voir que ça avance. Ça avance pas forcément parmi les personnes les plus privilégiées et tout. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se renseignent là-dessus. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de solidarité, de voir que ça commence de plus en plus jeune au final en fait. Et c'est ça qui est incroyable de voir des enfants qui réfléchissent déjà à ces problématiques. Waouh, ça va bien se passer après. Ça donne vraiment de la force de voir que c'est pas quelque chose qui est né de nulle part déjà. Parce qu'il y a eu, quand même beaucoup d'activistes avant, et c'est quelque chose qui se répand comme un virus, grand remplacement.
Yes. Et est-ce que, je sais pas comment l'amener du coup, parce que t'as parlé du fait que tu t'épilais pas.
On va te poser la question tout le temps, puis tu en avoir marre, non ?
Non.
Ouais.
En vrai, je trouve ça marrant parce que c'est vraiment pas quelque chose. Auquel je pense, tu vois, c'est pas comme le fait d'être asiate où ça j'y pense et tout, et ça, enfin, c'est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps que genre que j'y pense vraiment pas. Du coup, c'est marrant, et puis des fois, genre, j'ai des remarques un peu rigolotes, genre de personnes qui sont là en mode oh, mais moi j'aimerais trop le faire, mais j'ose pas et tout.
Quel conseil donnerais-tu à des hommes ou des femmes qui voudraient arrêter de s'épiler?
Faites-le.
C'est aussi simple que ça.
Non, mais ouais, j'ai pas envie de faire passer ça pour simple parce que je sais qu'il y a eu des moments où pour moi c'était difficile de, genre, d'aller dans la rue parce que je me prenais trop de regards et puis même de remarques. Enfin, je trouve ça ouf que genre les gens ils se sentent suffisamment légitimes à voir ton corps et faire des remarques sur ton corps alors que ça les regarde pas et que
je te valide pas.
Du coup, c'est bizarre. Mais ouais, j'ai eu des moments où genre, je sortais dans la rue, c'était l'été. Et,
forcément j'étais en short parce que putain il fait trop chaud et où j'entendais bon après j'ai aussi un peu d'anxiété sociale donc ça amplifie ça, mais il y avait aussi vraiment des gens qui disaient en mode ah oh, mais regarde elle s'y pile pas, c'est dégueulasse là. Ou non, en fait ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre corps, et c'est ça qui est important. Et faites pas chier les autres qui font pas les mêmes choix que vous. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de féministes qui parlent d'épilation et tout, elles ont cette injonction de « il faut s'accepter tel qu'on est, non au dictat de la beauté et tout ». Ben oui, mais genre il y a aussi cette question d'être bien dans sa peau. Des fois aussi cette question, ça peut être aussi un peu lié à la santé mentale aussi, parce que genre quand t'as déjà des problèmes, si tu dois en plus te rajouter le fait que genre les gens vont se moquer de toi parce que t'as des poils, fais ce que tu veux et fais ce que tu peux pour être bien dans ta peau. Enfin, ouais, pour tout ça pour dire que c'est possible, que c'est pas hyper difficile, parce que jusqu'à maintenant, la majorité de mes partenaires ont jamais eu des commentaires désobligeants là-dessus. Et même, je suis allée en vacances avec mon copain à la plage, et j'avais pas eu le temps, parce que généralement je coupe un petit peu, genre pour éviter que ça dépasse, ou quand je vais à la piscine, je m'épile le maillot, mais pas en mode intégral, juste genre les côtés quoi. Et là j'avais vraiment rien du tout, et genre je suis brune, j'ai des poils qui se voient, genre qui étaient longs et tout, et ça me fait vraiment des bandes quoi, genre ça me fait des bandes de... C'est super sexy ce que je vais dire. ça me fait genre des bandes, genre j'avais mesuré une fois genre de 7 cm des côtés. Et ouais, genre je suis allée à la plage comme ça, et j'ai eu zéro remarque, alors que putain j'avais des poils qui sortaient de la tuche là. Et ouais, je me sentais trop mal, genre je me mettais un petit peu derrière mon copain machin, et puis à la fin j'étais en mode bah tout va bien, enfin il y a pas de maître nageur qui m'a couru après pour me dire putain vous êtes vraiment une honte, regardez les enfants voient ça.
Non, mais... les enfants voient
mais en vrai j'avais vraiment cette peur de genre il y a quelqu'un qui va me dire que je vais pas pouvoir aller dans l'eau quoi, enfin ou mon copain m'a fait zéro remarque, et après j'en ai parlé en mode mais du coup enfin ça te dérange pas et tout, il était en mode bah tu fais ce que tu veux, enfin pourquoi est-ce que j'aurais quoi que ce soit d'avis à avoir là-dessus, enfin.
Marie, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
Oui, je suis complètement dans la majorité, effectivement, enfin je subis une oppression, mais ça doit pas me faire oublier que sur plein d'autres points je suis privilégiée. Je suis neurotypique, je suis cis, je suis mince, et je suis valide. Il y a probablement plein d'autres choses que je m'en rends pas compte, des privilèges que j'ai, mais enfin, je suis française, j'ai mes papiers, ça va quoi.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud.
La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.